Bonjour frères et sœurs, un très joyeux sabbat à vous tous. Quelques 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Socrate, le grand philosophe grec, a bu un poison et s'est allongé pour mourir. Il avait été offert le choix entre le bannissement ou le fait de se suicider, et il a choisi le suicide. Après avoir bu ce poison et s'être allongé pour mourir, un ami est venu à lui et lui a posé la question « Vivrons-nous encore ?» Le philosophe mourant ne pouvait que répondre « Je l'espère, mais personne ne puisse le savoir. » En effet, les hommes se demandent depuis toujours qu'est-ce qui arrive après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Comment est-ce qu'elle serait? Et comment est-ce que cela se passe? Est-ce que c'est immédiatement après la mort que l'âme va quelque part? Ou est-ce qu'il y a autre chose de prévu par notre Créateur? Nous allons regarder ce qu'en dit la Bible aujourd'hui, car dans la suite de notre étude sur les doctrines de base de Hébreux chapitre 6, nous arrivons à la réponse à cette question, qu'arrive-t-il après la mort? Reportez-vous avec moi, s'il vous plaît, dans Hébreux chapitre 6, et nous allons lire la suite dans ces doctrines fondamentales de l'Église. Hébreux chapitre 6, je commence dans le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. La résurrection des morts. C'est une doctrine fondamentale de l'Église chrétienne que de comprendre ce que c'est la résurrection des morts. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui a été révélé seulement à l'époque de l'Église primitive, après la mort de Jésus-Christ. C'est quelque chose que les serviteurs de Dieu ont compris, d'une certaine manière du moins, depuis très très longtemps. C'était leur espoir, et c'est toujours l'espoir des chrétiens aujourd'hui. Prenons quelques exemples de l'époque avant Jésus-Christ, dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, par exemple, nous avons une prophétie très claire de cette résurrection des morts. Daniel chapitre 12, nous commencerons au verset 1. En ce temps-là, et quand nous lisons cela dans la Bible, en ce temps-là, le temps dont il est question, c'est un temps prophétique à venir, ça concerne presque toujours l'époque du retour de Jésus-Christ. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour leur honte éternelle. Daniel avait compris déjà à son époque qu'il viendrait une résurrection des morts et qu'il y avait, des possibilités différentes pour ceux qui seraient ressuscités. Nous pouvons prendre un autre exemple dans Ésaïe 26. Ésaïe, chapitre 26, où nous trouverons une autre référence à une résurrection des morts. Ésaïe, chapitre 26, et au verset 19. Là, nous lisons, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. » Ésaïe aussi avait la compréhension qu'il viendrait une résurrection des morts. Mais comme nous allons le voir aujourd'hui, la Bible parle en fait de plusieurs résurrections. Tous ne vont pas ressusciter en même temps, et la Bible rend cela très très clair. Alors ce que je propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est de faire le tour des résurrections qui sont mentionnées dans la Bible, de regarder les différents passages, et de comprendre qui fera partie de chaque résurrection et quand aura lieu chaque résurrection dont il est question. Reportez-vous avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. et nous avons un passage très réconfortant à propos d'une de ces résurrections. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il y aura une résurrection de ceux qui sont en Christ. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire les chrétiens qui seront toujours en vie à ce moment-là, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors nous devrions commenter en passant ici qu'il y a certaines églises qui croient que ces chrétiens montent dans les airs, dans les nuées, et puis ils restent là, dans les nuées, quelque part. Et c'est de là que vient cette image qu'on avait pendant longtemps dans le monde chrétien de chrétiens avec des ailes d'ange en train de jouer à la harpe, assis sur des nuages. Mais en fait, ce passage dit qu'ils seront toujours avec le Seigneur, et la question est de savoir où sera le Seigneur. Il vient, et d'autres passages de la Bible nous montrent qu'il va poser ses pieds sur le montagne des Oliviers, c'est mentionné dans Zacharie. Donc lui va revenir sur la terre, et ses chrétiens glorifiés reviendront avec lui. Ils monteront à sa rencontre, ils reviendront sur la terre avec Jésus-Christ, pardon, pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est encourageant de savoir que ce qui va arriver tout de suite au retour de Jésus-Christ, c'est la résurrection des morts en Christ et la transformation de ceux qui sont encore en vie. Le passage parallèle, si vous voulez, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons le verset 23 pour commencer. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 et 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et c'est ce que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens. Au moment de son retour, ceux qui sont à Christ reviendront à la vie, ceux qui sont déjà morts. Dans 1 Corinthiens 15 toujours, mais un peu plus loin, au verset 51, nous avons d'autres explications à propos de cette résurrection. L'apôtre Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » C'est-à-dire que l'Église existera toujours au moment du retour de Jésus-Christ. Il y aura des chrétiens toujours en vie à ce moment-là. Certains seront déjà décédés, mais il y en aura d'autres encore en vie. Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Ça, c'est une très belle description de ce qui va se passer lors de cette résurrection. Les corps seront transformés, nous allons revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité, et pour ceux qui ont part à cette résurrection-là, il n'y a plus possibilité de mourir. Ils sont devenus immortels. Maintenant, je vous invite à vous référer avec moi dans Apocalypse chapitre 20, car nous allons voir une phrase importante. Nous avons déjà vu que ceux qui ont part à cette résurrection-là, dont nous sommes en train de lire, sont ceux qui appartiennent à Christ ou ceux qui sont en Christ. Mais nous allons voir un mot, ou une phrase importante ici dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20, à partir du verset 4. L'apôtre Jean voit dans cette vision, « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc nous voyons là le rôle de ces chrétiens glorifiés, ressuscités. Ils vont régner avec le Christ pendant 1000 ans, pendant les 1000 ans du millénium, comme nous l'appelons, cette période de 1000 ans, quand le royaume de Dieu sera établi physiquement sur la terre. Verset 5, maintenant, est une phrase parenthétique, entre parenthèses. Entre parenthèses, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et on ferme la parenthèse. C'est-à-dire qu'il y a les chrétiens qui ressuscitent et qui règnent pendant 1000 ans. Les autres morts, ceux qui ne sont pas chrétiens, ressuscitent après les 1000 ans. Donc il y a 1000 ans qui séparent une première résurrection d'une résurrection qui suivra. Et c'est ce que nous lisons à la fin du verset 5. C'est la première résurrection, la résurrection qui a eu lieu au retour de Jésus-Christ, est appelée par la Bible la première résurrection. Qui dit première, dit aussi qu'il y aurait au moins une deuxième. Il faut qu'il y en ait d'autres, sinon on ne peut pas l'appeler la première. Et le verset 6 nous dit, de manière très encourageante, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc ceux qui ont part à la première résurrection règnent pendant cette période de 1000 ans, avant la résurrection d'autres personnes. Maintenant, posons-nous rapidement la question. Ceux qui sont à Christ ou ceux qui sont en Christ, comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens et 1 Corinthiens, ça veut dire quoi? Bien, je vais simplement vous donner la référence. Romains 8, verset 9, dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ceux qui sont à Christ sont ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit, et il y a un processus impliqué dans la réception du don du Saint-Esprit. Il faut se repentir, il faut avoir la foi, il faut se faire baptiser, recevoir l'imposition des mains. C'est ainsi que Dieu donne le don du Saint-Esprit à ceux qui se convertissent. Romains 8, verset 14 dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc il ne suffit pas de recevoir ce don, il faut aussi se laisser conduire. Il faut que le Saint-Esprit soit une force agissante dans nos vies et que nous suivions les instructions, que nous suivions l'influence, si vous voulez, du Saint-Esprit dans nos vies. Il est clair que pour les chrétiens du premier siècle, ceux qui étaient en vie à l'époque où le Nouveau Testament était écrit, leur espoir, c'était la résurrection. L'apôtre Paul rend cela très clair dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Verset 7, à partir du verset 7. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. L'apôtre Paul explique un peu son optique sur la vie présente et la vie à venir. Il dit au verset 7, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Tout ce qui avait été important pour lui avant sa conversion est devenu sans intérêt. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, en la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est ça que l'apôtre Paul avait en tête. Il voulait avoir part à la résurrection d'entre les morts. Un peu plus loin, au verset 20, nous lisons, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire pour le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Il est question d'avoir un corps transformé, d'avoir un corps spirituel, glorifié, tout comme le corps glorifié, le corps de sa gloire, le corps glorifié de Jésus-Christ. Ce sera une transformation pour nous maintenant certainement inimaginable, absolument époustouflant, cette transformation qui aura lieu. Et c'est ça que Paul visait dans l'avenir. Il ne pensait pas monter au ciel, jouer la harpe sur les nuages. Il allait ressusciter. Le scientifique et l'imprimeur et père fondateur de la nation des États-Unis, Benjamin Franklin, a écrit son épitaphe à l'avance, c'est-à-dire les paroles qu'il voulait faire graver sur sa pierre tombale. Voici ce qu'il a écrit. « Ici gît le corps de Benjamin Franklin, imprimeur, comme la couverture d'un vieux livre, son contenu déchiré, ses lettres dorées enlevées. Mais l'œuvre elle-même ne sera pas perdue, car elle apparaîtra, comme elle l'a cru, dans une nouvelle et plus belle édition, corrigée et amendée par son auteur. » Très poétique, j'ai beaucoup aimé cette épitaphe. Et il a compris, M. Franklin, qu'il viendrait une résurrection. C'est quelqu'un qui disait la Bible, et comprenait que la Bible parle de la résurrection des morts, une résurrection à un corps glorifié, pour ceux qui ont part à cette première résurrection. Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11 parle aussi de la première résurrection, Hébreux chapitre 11, verset 35, dans toute la liste de gens de foi, les personnes qui ont montré un excellent exemple de fidélité et de foi dans leur vie, il est question au verset 35 de femmes qui recouvrèrent le mort par la résurrection, c'est-à-dire qu'il y avait même des résurrections physiques qui donnaient quelques années de plus de vie physique. Ça, il y a plusieurs exemples de cela dans la Bible, à ne pas confondre avec la première résurrection qui est à la vie éternelle. Mais des femmes recouvrèrent le mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. La première résurrection est appelée une meilleure résurrection. C'est une meilleure résurrection, pourquoi? Parce que cela donne la possibilité d'aider Jésus-Christ à régner pendant 1000 ans. Imaginez la possibilité de voir et d'aider notre Seigneur à refaire le monde, à enseigner la vérité de Dieu à toute la population physique de la terre, et de refaire le monde comme un paradis physique, d'instaurer une règne de paix, d'harmonie. Ce sera vraiment une très très grande joie. Et ceux qui viendront après, ceux qui viendront dans d'autres résurrections, ou qui pourraient venir à la vie après, n'auront pas cette possibilité, n'auront pas cette joie-là de participer au millénium. Nous avons déjà lu dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'il y a un corps spirituel. Quand nous ressusciterons, nous aurons un corps spirituel. Nous aurons quand même, nous ne comprenons pas tous les détails de comment ça sera, mais ce sera un corps spirituel comme Jésus-Christ a un corps spirituel. Mais ce seront des corps incorruptibles. Nous n'aurons plus de douleur, nous n'allons plus porter de lunettes, nous n'aurons plus de couverture, plus de faiblesse, nous n'aurons plus besoin de dormir, nous n'aurons plus jamais ni faim ni soif, et ainsi de suite. Ce sera vraiment des corps glorifiés. 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. 1 Jean chapitre 3 et le verset 2 nous dit que nous allons être comme Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3 verset 2. 1 Jean 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Nous allons ressembler à Jésus-Christ avec des corps glorifiés, comme lui, il a déjà un corps incorruptible, un corps, comme l'a dit la Bible, le corps de sa gloire. Est-ce que la Bible nous donne une description du corps de sa gloire? Nous avons peut-être un aperçu au début du livre d'Apocalypse. Prenez Apocalypse chapitre 1. Certaines choses dans le livre d'Apocalypse ne sont que symboliques, D'autres choses sont des représentations qui sont peut-être véridiques, exactes, et pas seulement symboliques. Alors, je vais simplement vous lire le passage dans Apocalypse chapitre 1 qui décrit ce que l'apôtre Jean a vu dans cette vision. Certaines choses sont clairement symboliques, mais peut-être que d'autres non. Alors, je ne vais pas essayer de vous dire, puisque je ne sais pas exactement, qu'est-ce qui est symbolique et qu'est-ce qui n'est pas symbolique, mais en tout cas, c'est intéressant à considérer. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors comme j'ai dit, cette description de Jésus-Christ glorifié ici a des aspects symboliques. Je ne pense pas qu'il y a constamment une épée sortant de sa bouche, une épée à deux tranchants, mais peut-être d'autres aspects reflètent fidèlement la description de sa physionomie dans son corps glorifié. Des cheveux blancs comme de la laine blanche, les yeux comme des flammes de feu, une voix comme le bruit de grandes eaux. Est-ce que nous ressemblerons à quelque chose un peu comme ça? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité intéressante à considérer. En tout cas, frères et sœurs, nous voulons avoir part à cette première, à cette meilleure résurrection. Une fois que nous arrivons à ce point-là, eh bien, il n'y a plus rien qui puisse nous arriver. C'est la vie éternelle. Mais ce n'est pas la seule résurrection dont parle la Bible, comme nous avons déjà vu. Il y a d'autres résurrections qui sont mentionnées. Apocalypse chapitre 20. Revenons dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Au verset 13. Apocalypse chapitre 20 au verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous avons donc une autre résurrection qui est mentionnée ici, la résurrection à la seconde mort, c'est la résurrection des incorrigibles, ceux qui ont eu leur occasion d'accepter ce que Dieu voulait leur offrir et qui ont refusé. Ils ont refusé d'être corrigés, ils ont refusé de suivre ce que Dieu leur disait de faire et la sentence qui leur tombe dessus, c'est la mort. Ils sont brûlés dans cet étang de feu. Et après, c'est la fin de la mort, même la mort est jetée là-dedans aussi, c'est-à-dire après cela, il n'y a plus rien qui puisse mourir. Tout ce qui peut mourir y est jeté. D'autres passages nous montrent en fait que ce feu embrase toute la terre et inaugure l'arrivée des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais parlons un peu plus de cette résurrection-là, la résurrection des incorrigibles. Jésus a expliqué qu'il y avait des péchés pour lesquels on ne pouvait pas être pardonné. Et celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux a parlé de cela également. Prenez Hébreux chapitre 10. Il y a des péchés qu'on peut commettre où ces péchés deviennent impardonnables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pardon lorsqu'on se laisse aller à pécher dans une certaine attitude. Hébreux chapitre 10, verset 25. Plutôt le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Là, nous voyons un peu plus clairement qui passera dans ce feu, le feu d'enfer, si vous voulez, le feu de la Géhenne, qui va consumer complètement les méchants. Ce sont les gens qui sont rebelles, nous lisons à la fin du verset 27. Ceux qui auront compris ce que Dieu voulait qu'ils fassent et qu'ils auront refusé de le faire. Ils refusent. Et ils se sont laissés aller dans une attitude de péché volontairement, c'est-à-dire qu'ils désirent pécher. Ils veulent contrecarrer le plan de Dieu. En fait, ils se sont laissés aller dans l'attitude de Satan, puisque c'est ce que Satan fait. C'est l'adversaire, l'ennemi de Dieu et du peuple de Dieu. Il lutte activement contre Dieu. C'est un rebelle. Et ceux qui se laissent aller dans cette attitude-là iront dans ce feu de la Géhenne. Nous avons peut-être un aperçu de, disons, l'opposition entre la première résurrection et cette résurrection-ci dont nous parlons maintenant, dans Ésaïe 65. Il paraît que Ésaïe, à son époque, que Dieu lui avait fait entrevoir au moins comment seraient ces deux résurrections. Ésaïe, chapitre 65, verset 11. Ésaïe 65, à partir du verset 11. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Muni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu, j'ai parlé, vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. Apparemment, ils savaient que c'était mal et ils ont fait quand même. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous vous crieriez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus, le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. » Nous allons revenir dans ce passage un peu plus loin dans le sermon, mais déjà ici, nous voyons une opposition entre ceux qui sont destinés à une sentence de mort, puisqu'ils se sont rebellés contre Dieu, et puis ceux qui sont fidèles à Dieu, qui entrent dans la joie de leur Créateur. Malachi aussi a compris que le moment viendrait quand les méchants seraient brûlés. Malachi chapitre 4, Malachi chapitre 4, verset 2. Mais prenons au verset 1. Malachi chapitre 4 et au verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Les méchants seront brûlés, seront comme de la cendre, le jour où Dieu va finalement visiter sur eux ce qu'ils auront mérité par leur rébellion contre l'Éternel. Jésus a expliqué dans une parabole aussi ce même principe. Prenez avec moi Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître et de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps tout le blé. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Ça, c'est la parabole. Ensuite, ses disciples sont venus pour lui demander quelle était la signification. Et il a donné la signification au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Là aussi, il y a cette opposition entre les deux sorts finales possibles, où on est glorifié, comme sont ceux qui participent à cette première résurrection, ou alors on finit par cet étang de feu, on est brûlé, et on finit par être de la cendre sous les pieds des justes. Allons quelques pages plus loin, dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 31. Ici aussi, il est question de cette division entre ceux qui appartiennent à Dieu au retour de Jésus-Christ et ceux qui ont été rebelles. Verset 31 de Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et il les loue de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont été fidèles. Ensuite, pour ceux qui sont à sa gauche, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors, nous devrions commenter ici. Notez que ce feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Ce verset ne veut pas dire que les êtres humains iront et resteront éternellement dans un feu. Ils vont devenir de la cendre. Ils vont brûler. Le fait que ce feu est éternel est destiné au diable et à ses anges, qui eux sont immortels. Ils ne meurent pas. Mais les êtres humains qui vont dans ce feu, ils vont mourir. Verset 46. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et le châtiment éternel, c'est en fait la mort éternelle. Ils resteront morts pour toujours, ils ne reviendront jamais à la vie. Le châtiment éternel, c'est la mort éternelle. Dieu ne va pas les faire souffrir éternellement, à brûler éternellement, sans jamais se consumer, à être dans ces souffrances intense, Dieu ne torture pas ses enfants de cette manière-là. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, 2 Thessaloniciens chapitre 1, il est également question de cet châtiment éternel, ce châtiment éternel. 2 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 9. Il est question de ceux qui, de nouveau, se rebellent contre Dieu. Et Paul dit, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Évidemment, puisqu'ils seront morts, ils ne verront plus jamais Dieu, ils seront inconscients de toute la joie qu'auront les enfants de Dieu pendant l'éternité dans la famille de Dieu. C'est une ruine éternelle. D'autres traductions mettent une destruction éternelle. La version du roi Jacques en anglais notamment dit « destruction éternelle ». Ils seront détruits et ils resteront toujours détruits. Ils resteront ruinés, si vous voulez. Ils ne seront plus. Donc, nous avons deux résurrections qui sont mentionnées ici. Mais la Bible nous montre qu'il y aura aussi une autre résurrection. Et j'ai laissé cette résurrection à la fin, bien qu'en fait, chronologiquement, c'est la deuxième. Mais j'ai laissé ça à la fin parce qu'il faut un peu plus d'explications peut-être à cette résurrection-là. Beaucoup d'églises de ce monde, d'églises chrétiennes, comprennent qu'il y a deux résurrections. Mais très peu comprennent qu'il y en a trois, en fait, qu'il y a une troisième résurrection. La troisième résurrection, ça serait qui et comment est-ce que nous savons qu'il y aura une troisième résurrection? Bien, j'aimerais vous inviter, nous allons peut-être entamer cette troisième résurrection de manière un peu différente. Reportez-vous avec moi dans 1 Timothée chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire les versets 3 et 4, où il y a un principe absolument fondamental à comprendre, et que beaucoup de, disons, d'églises qui ne comprennent pas l'existence de cette deuxième résurrection, et le fait qu'il y en a trois, ils doivent passer de côté de ce principe. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, et c'est le verset 4 qui nous intéresse en particulier, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'est pas sa volonté qu'un certain pourcentage se perde. Il n'est pas dans sa volonté que seulement quelques personnes qui sont prédestinées à la vie recevront la vie, et les autres, dès leur naissance, c'est déjà prévu qu'ils vont mourir. Ils ne pourront pas hériter la vie éternelle. Non, la Bible rend très clair ici que Dieu veut que tous les hommes, tous les êtres humains, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est un principe primordial. Dieu aime toute sa création. Il aime chaque être humain. Et il veut le salut de chaque être humain qui n'ait jamais vécu. Nous ne devons jamais perdre cela de vue. Seulement, il y a un problème, n'est-ce pas? Le problème, c'est que Adam et Ève ont péché. Ils ont montré un mauvais exemple que tous leurs enfants ont suivi depuis cette époque. À tel point que nous lisons dans Romains chapitre 3, et le verset 23, Romains chapitre 3 et le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chaque être humain, sauf Jésus-Christ, qui a jamais vécu, a commis des péchés. Chaque être humain a commis des péchés, à l'exception de Jésus-Christ. Et nous savons également par Romains, dans Romains chapitre 6, et le verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous commettons un péché, il y a une amende de mort qui nous incombe. Et tous ont péché. Le verset 23 poursuit, « Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et en fait, c'est seulement à travers Jésus-Christ que nous pouvons avoir l'amende de mort payée à notre place, puisque lui n'a pas péché, et il est mort quand même. Donc c'est par le biais de son sacrifice que nous pouvons être pardonnés, et ensuite recevoir le don de la vie éternelle. Et la Bible nous explique comment cela peut se passer. Je répète de nouveau, nous devons nous repentir, nous devons avoir foi en Dieu et en Jésus-Christ, nous devons nous convertir, nous devons recevoir par l'imposition des mains du don du Saint-Esprit, et nous devons montrer par notre vie que nous sommes entièrement soumis à Dieu. En fait, la Bible dit que c'est impossible de recevoir le salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Revenons quelques pages en arrière, Actes chapitre 4. Vous verrez dans quelques minutes pourquoi tout ceci concerne la deuxième résurrection, la résurrection de ceux qui n'ont jamais connu Dieu, en fait. Actes chapitre 4 et le verset 12. Il est question de Jésus-Christ au verset 11 et puis au verset 12, il est marqué « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Il faut être chrétien, il faut être véritablement chrétien, parce que la Bible nous montre aussi qu'il y a des contrefaçons du christianisme qui ne sont pas, qui ont la forme, mais pas le fond, si vous voulez, non pas la substance. Ça veut dire que si on n'est pas chrétien, si on est musulman, bouddhiste, animiste, si on est autre chose, si on n'a pas accepté Christ, on peut avoir été une très bonne personne, mais si le nom de Jésus-Christ n'a pas été apposé sur nous, si vous voulez, eh bien, nous ne pouvons pas recevoir ce salut, avoir les péchés pardonnés. Et nous avons déjà vu tout à l'heure comment est-ce qu'on appartient à Christ. Eh bien, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui passent par ce processus de recevoir le Saint-Esprit et de se laisser guider par le Saint-Esprit. Si on ne peut pas être chrétien dans le sens véridique, on ne peut pas être sauvé. Si on ne se repente pas, si on ne s'est pas fait baptiser, etc., etc., on ne peut pas recevoir le salut et tout son péché. Alors les enfants qui sont morts sans avoir pu comprendre tout cela et accéder au Saint-Esprit, ceux qui naissent dans les pays musulmans, ce n'est pas de leur faute qu'ils naissent dans une famille musulmane qui leur apprend des choses qui ne sont pas vraies, ou des familles bouddhistes ou animistes ou autres. Ces personnes-là, est-ce que Dieu les condamnerait tout simplement parce qu'ils sont nés dans le mauvais endroit au mauvais moment? Okay, on essaierait de répondre, oui, mais il y a eu des missionnaires. D'accord, il y a eu des missionnaires qui enseignaient une version du christianisme, mais ils n'ont touché qu'une infime minorité de ces gens dans d'autres pays. Et qu'est-ce qu'on ferait de ces gens qui sont nés, qui sont morts sur la terre avant la venue de Jésus-Christ, avant qu'il y ait de prédication? Pendant les milliers d'années avant la venue de Jésus-Christ, il a vécu beaucoup, beaucoup de monde qui n'a pas connu le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe de ces gens-là? Eh bien, pour essayer de répondre à cette question difficile, si on maintient la version traditionnelle du christianisme, la vue traditionnelle qu'on va au ciel, on a dû inventer des choses qui sont complètement extra-bibliques, des limbes où ils sont là, ils sont un peu nulle part, ils sont coincés pour l'éternité entre le ciel et l'enfer, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui arrive de tous ces gens-là? Qu'est-ce qui arrive de personnes innocentes qui meurent sans avoir eu l'occasion de connaître Dieu? Parce que la Bible dit également, Jésus a rendu très clair dans Jean chapitre 6 et les versets 44, que on ne peut pas venir à Dieu à moins que Dieu ne nous appelle. Jean chapitre 6, verset 44 dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus va ressusciter au dernier jour ceux qui ont été attirés par le Père. Mais il n'appelle pas tout le monde, c'est très clair, il n'attire pas tout le monde. S'il attirait tout le monde, on n'aurait pas besoin d'avoir ce verset dans la Bible, puisque tout le monde serait automatiquement appelé. Mais Jésus a dit qu'on ne peut pas venir à lui si le Père ne nous attire. Ce qui veut dire que certains ne sont pas attirés, n'étaient pas attirés à l'époque de Jésus-Christ. Mais comment comprendre ça, hein? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça à la lumière de ce que nous avons déjà lu dans 1 Timothée 2, verset 4? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors si c'est le cas, comment se fait-il qu'il n'appelle pas tout le monde maintenant? Matthieu chapitre 11. La réponse, vous en doutez, se trouve dans cette deuxième résurrection. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Matthieu chapitre 11, verset 20. Quelque chose de très intéressant ici. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ce passage suscite beaucoup de questions. Tout d'abord, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait faire des miracles à Tyr et Sidon? Si ça aurait suffi à ce que ces gens se repentent. Mais il n'a pas fait. Pourquoi condamner ces gens par manque de quelques miracles? À moins que c'était pas leur moment d'être appelé par Dieu et que leur moment allait venir plus tard. Et en fait, c'est exactement ça. Notons aussi que certaines villes seront traitées moins rigoureusement que d'autres dans le jugement. Si le jugement, c'est simplement le fait de les jeter tous dans les temps de feu, comment est-ce que les uns seraient traités moins rigoureusement que les autres? Mais en fait, le jugement dont il est question ici, c'est pas le jugement d'être jeté dans les temps de feu. C'est un autre jugement dont nous allons lire dans un instant. Prenez Jean chapitre 5, verset 28. Jean chapitre 5, verset 28. En fait, prenons le verset 26. Jésus dit, comme car le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y aura un jugement. Certains recevront tout de suite la vie, nous avons déjà lu à propos de cela, et pour d'autres, il y aura un jugement. Et souvent dans l'esprit de beaucoup de gens, on imagine que le jugement, c'est la punition, c'est la sentence qui tombe, vous partez dans le feu de la Géhenne. Mais ce n'est pas uniquement cela, le jugement, et en fait, il y a une autre espèce de jugement qui a déjà commencé, la Bible dit, pour la maison de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, nous allons regarder le verset 17. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. L'apôtre Pierre dit ici, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement commence sur la maison de Dieu. Le jugement est déjà en cours pour ceux qui sont appelés par Dieu. Comme nous avons vu dans Jean 6, 44, on doit être appelé, on doit accepter cet appel, et ensuite, on passe par une période de jugement. Jugement ne veut pas simplement dire la sentence qui tombe, mais ça veut dire l'évaluation, la vérification, l'épreuve de quelqu'un. On fait ses épreuves. C'est ça aussi le jugement. Le jugement, c'est cette période d'évaluation, de vérification ou d'épreuve. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 14, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut, c'est pas une chose qui s'est fait une fois pour tout, et puis, quoi que vous fassiez par la suite, même si vous retombiez dans le péché, vous devenez meurtrier et tout le reste, vous êtes quand même sauvé. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il faut persévérer dans la bonne voie jusqu'à la fin pour être sauvé. Paul disait ça dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, même Paul savait qu'il devait persévérer et que s'il arrêtait de persévérer, s'il abandonnait la bonne voie, il pourrait perdre le don gratuit que Dieu lui avait accordé. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Paul dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Ben, Paul était apôtre à ce moment-là. Il était converti, il avait le Saint-Esprit de Dieu en lui, mais il a dit, « Je fais des efforts maintenant pour ne pas être moi-même désapprouvé. » C'est-à-dire qu'il pouvait tomber de là où il était. Il pouvait perdre son salut. Maintenant, quand nous disons cela, beaucoup de personnes se fâchent en disant que vous dites que vous n'êtes jamais sûr de votre salut. Si nous persévérons jusqu'à la fin, c'est absolument sûr. Dieu ne va pas retirer quelque chose, à moins que nous le rejetions. Et la manière de rejeter ce que Dieu nous donne, c'est de tourner le dos à la vie que Dieu décrit pour nous, la vie qu'il veut que nous vivions. Nous devons continuellement faire des efforts, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et Dieu nous dit qu'il nous donnera toute l'aide nécessaire pour réussir. Maintenant, avec tout cela en arrière-plan, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, tous ont péché, tous ont besoin de connaître Jésus-Christ et de passer par Jésus-Christ pour recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Dieu doit appeler. Et clairement, il n'a pas appelé tout le monde maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe de ces gens, des milliards de personnes qui ont vécu et qui sont morts sans avoir entendu le nom même de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui arrive de ces personnes-là? Dieu est-il impuissant à les sauver? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Non, notre Créateur est beaucoup plus grand que cela. Il a prévu un plan qui donne l'occasion à chaque être humain. Ce n'est pas une deuxième chance, comme certains le diraient. Ah, vous prêchez qu'il y a une deuxième chance. Non, il n'y a pas une deuxième chance. Il y a une chance. Parce que si Dieu ne vous a pas appelé, vous n'avez pas eu votre chance. Vous ne pouvez pas venir à Jésus-Christ, à moins que Dieu ne vous attire. Et Dieu attirera chaque être humain une fois. Le fait qu'ils vivent deux fois ne veut pas dire qu'ils ont eu deux chances. Parce qu'on ne peut pas avoir de chance de recevoir le salut si Dieu ne nous attire pas, s'il ne nous appelle pas. Avec tout cela à l'esprit, regardons Apocalypse chapitre 20. Nous y étions tout à l'heure. Nous avons lu les versets 4 à 6 à propos de la première résurrection. Nous avons lu les versets 13 à 15 concernant la troisième résurrection pour des incorrigibles. Mais il y a aussi une autre résurrection mentionnée ici. Et un jugement qui a eu lieu. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. Donc, il y a une résurrection. Les résurrections, les morts, grands et petits, sont là. Et un livre ou des livres sont ouverts. Des livres, c'est la Bible, puisque c'est la Bible qui explique comment nous devons vivre nos vies. Et un autre livre est ouvert, qui est le livre de vie, c'est-à-dire l'évaluation de comment on a vécu sa vie. Et c'est seulement après ce jugement, leurs œuvres, et les œuvres comptent surtout quand nous comprenons leur importance. C'est-à-dire, nous devons comprendre la signification de nos œuvres avant qu'ils comptent devant Dieu. Si nous ignorons ce que nous faisons, Dieu tourne la tête, si vous voulez. Nous sommes toujours coupables de ce que nous aurons pu commettre, mais il est disposé à nous pardonner parce que nous n'avons pas compris ce que nous avons fait. Comme Jésus a dit quand il mourait, crucifié, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu est prêt à pardonner ses péchés beaucoup plus facilement. On est jugé selon nos œuvres quand nous comprenons la signification de ces œuvres. Ce qui veut dire il faut qu'il y ait une période de temps pour les gens ressuscités dans cette deuxième résurrection pour vivre leur vie en connaissance de cause et passer par cette période de jugement, comme le jugement qui a déjà commencé sur la maison de Dieu maintenant, ils vont passer par cette période de jugement eux aussi. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37 montre une image très frappante d'une résurrection de personnes qui avaient déjà vécu leur vie physique, mais qui sont ressuscitées à une autre vie physique. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 1. Il est question ici d'une description de cette deuxième résurrection dont nous parlons. La main de l'Éternel, verset 1, fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. » Il ne peut être question ici de la première résurrection, car nous avons déjà vu que cette première résurrection est à un corps glorifié, un corps spirituel. Il n'y aura pas de chair, il n'y aura pas de peau, il n'y aura pas de nerfs. Non, il est question ici d'une résurrection physique. Et vous saurez que je suis l'Éternel, fin du verset 6. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Les gens d'Israël n'ont pas été appelés par Dieu. Ils comprenaient certaines choses de manière physique, mais Dieu donnait son Esprit Saint seulement à quelques chefs parmi eux, Moïse, Josué, David, etc. Mais Dieu ne travaillait pas spirituellement avec la nation d'Israël. Donc même les Israélites ont besoin de revenir à la vie, de comprendre, d'avoir leur esprit ouvert par Dieu lorsqu'il va les attirer, et de pouvoir accepter Jésus-Christ, et de passer par la période de jugement par laquelle nous autres chrétiens passons maintenant actuellement, et puis ils pourront accéder à la vie éternelle, ou pour ceux, et à mon avis ce sera très rare, s'il y en aurait qui deviendraient rebelles à leur tour, eh bien ils seraient jetés aussi dans cet étang de feu, qui apparemment va brûler pendant toute la période du millénium, pendant cette période de jugement à la fin du millénium, et puis lorsque la troisième résurrection aura lieu, ce feu s'étendra à toute la terre et le purifiera, et ce sera la fin de la mort, complètement. Maintenant, nous pouvons considérer Ésaïe 65. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait y revenir. Ésaïe 65. Nous donne une indication, on ne peut pas dire avec certitude, mais une indication quand même, que peut-être cette période de jugement, le jugement du grand trône blanc, durerait 100 ans. si la Bible nous dit combien de temps ça va durer, c'est marqué ici. Mais nous ne pouvons pas dire à 100% qu'il est question de que ceci se réfère à cette période de jugement. À mon avis, il est probable, mais ce n'est pas sûr. Ésaïe 65, verset 20. Mais tout d'abord, au verset 17, pour nous mettre dans le contexte, nous sommes clairement dans le contexte disons, la fin de l'histoire humaine, tout vers la fin de l'humanité. Je vais créer de nouveaux cieux et nouvelles terres. Et dans d'autres passages en Pierre et dans d'autres endroits, quand il est question des nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est la fin de ce qui est physique. La terre physique est remplacée par une terre spirituelle, si vous voulez. Et donc, c'est dans le contexte de la fin du temps, ou vers la fin du plan de Dieu en ce qui concerne ce qui est physique. Et au verset 20, « Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et ils mangeront des fruits. » Donc, indication ici d'une vie physique qui se poursuit sur la terre, et aussi le fait qu'il semble qu'on vit 100 ans. Il y a une période déterminée de 100 ans, et les gens resteront plus jeunes que nous à 100 ans aujourd'hui. Ils seront dans la force de l'âge pendant ces 100 ans. Mais le pécheur, à 100 ans, sera maudit. C'est-à-dire, à la fin de cette période de 100 ans, il semble qu'il y ait le jugement final, si vous voulez, qui a lieu. La sentence tombe. Ou vous avez la vie éternelle, ou vous allez dans l'étang de feu. Donc, comme j'ai dit, nous ne pouvons pas dire à 100%, mais il semble très probable qu'il est, que c'est une référence à cette période de jugement qui suivra la deuxième résurrection pour ceux qui n'ont jamais connu Dieu. Et ainsi, chaque être humain reçoit une chance de connaître Dieu, une chance de recevoir le salut. Pas deux chances. Le fait de ressusciter et d'avoir une autre période de vie physique ne veut pas dire une deuxième chance. C'est la première chance. Parce que si Dieu ne nous attire pas, si ce n'est pas le moment où il décide de travailler avec nous, s'il décide de nous garder pour après, eh bien, on n'a pas véritablement eu notre chance. Et ça, c'est ô combien réconfortant. Parce que ça veut dire que les gens qui vivent dans l'ignorance aujourd'hui ne sont pas perdus à tout jamais. Un jour, ils seront ressuscités et Dieu va ouvrir leur esprit et leur permettre de comprendre son plan et ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle, recevoir ce don gratuit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu est infiniment intelligent et infiniment puissant. Et il a prévu un plan où tous les hommes seront sauvés, sauf ceux qui, en connaissance de cause, deviendront rebelles et refuseront de recevoir ce don gratuit que Dieu veut leur donner. Les gens, depuis des milliers d'années, se demandent ce qui vient après la mort. Différentes religions apportent des réponses différentes. Quel est le but de la vie? Comment est-ce que nous pouvons y arriver? Qu'est-ce qui arrive après cette mort? Et parfois, on trouve des palliatifs dans d'autres choses. Mais c'est seulement la vérité que nous voyons dans la Bible qui nous donne le vrai réconfort. J'ai lu une histoire récemment qui m'a touché à propos de Mohandas Gandhi, qui est très admiré aujourd'hui pour sa politique de non-violence. Il a écrit une chose, c'était un hindou, mais qui empruntait certains principes du christianisme également. Voici une chose qu'il a écrit 15 ans avant sa mort, donc il avait encore longtemps à vivre. Je dois vous dire en toute humilité que l'hindouisme, comme je connais, satisfait entièrement mon âme, remplit tout mon être, et j'y trouve un réconfort dans le Bhagavata et dans les Upanishads qui me manque même dans le sermon sur la montagne. Ça, c'est quand il avait un certain temps à vivre encore. Mais juste avant sa mort, il a écrit autrement. Il a écrit ceci. « Mes jours sont comptés, et il est peu probable que je vive encore longtemps, peut-être une année ou un peu plus. Pour la première fois depuis 50 ans, je me trouve dans les profondeurs de la déprime. Tout ce qui m'entoure n'est que ténèbres. Je prie pour la lumière. » Certaines choses qui semblaient donner un sens à la vie, quand confrontées à la mort, tout d'un coup, n'avaient plus de poids, ne réconfortaient plus. L'humanité se demande ce qui vient après cette vie. Même beaucoup de chrétiens ou personnes qui se croient chrétiens ne savent pas exactement ou ne sont pas très rassurés quant à la vie après la mort. Les réponses que les hommes se sont imaginées ne satisfont pas. Mais, frères et sœurs, la vérité est merveilleusement encourageante. Chaque personne reçoit ou recevra une occasion de connaître Dieu, d'accepter et d'hériter l'appartenance à la famille de Dieu pour toujours. Dieu nous permet, à nous qui sommes appelés un peu en avance des autres, il nous permet maintenant cette lumière pour laquelle Gandhi priait juste avant sa mort. Nous avons cette connaissance. Nous venons de le voir aujourd'hui à travers des passages de la Bible qui expliquent la résurrection des morts en plusieurs étapes. À nous de garder cette vérité précieusement dans nos cœurs. Et à nous, en tant qu'Église, de travailler ensemble pour partager cette bonne nouvelle avec le monde entier.